Il est 8h23 à Paris. Voici la revue de presse des journaux français avec Catherine Potet. Bonjour Catherine.
Bonjour Arnaud.
Et tout d'abord, la une du Figaro, la République en marche face au péril de la division.
À l'approche des élections municipales de 2020, le parti présidentiel privé d'ancrage local tend la main à ses alliés, explique le journal qui ironise sans retenue sur la stratégie du parti. Il est loin le temps de l'arrogance. La République en marche, en pleine préparation des municipales de mars prochain, tend la main à de possibles alliés de droite, mais aussi de gauche. Mais visiblement, rien ne coule de source. Le Figaro énumère les villes sur lesquelles La République En Marche et son principal allié, le Modem, se divisent. Bordeaux, Vannes, Aix-en-Provence, Rennes ou encore Toulouse. Et c'est sans compter sur les divisions internes comme à Paris où le candidat officiel de La République En Marche, Benjamin Griveaux, doit faire face au dissident Cédric Villani, lui aussi membre du parti présidentiel. Les marcheurs sont tous d'accord, il faut continuer à marcher. Cette belle unité se craquelle pourtant quand vient le choix de la direction à emprunter, estime dans son éditorial Vincent Trémollet de Villers, qui se moque des marcheurs sans boussole et cible le président de la République. La vérité est que La République En Marche fut fondée sur les initiales d'un seul homme. Son objet social était de faire entrer Emmanuel Macron à l'Élysée. Le chef de l'État n'est pas candidat au municipal. En vue de sa réélection, il veut pouvoir construire un rassemblement mitterrandien sur le modèle de la France unie de 1988. Son mouvement précieux hier peut demain lui être utile. Aujourd'hui, il l'encombre.
À la une de Libération à présent, la photo de Tariq Ramadan.
Photo pleine page avec en gros titre le nouveau témoignage qui accuse Ramadan. Un témoignage qui vient contredire l'ancien prédicateur musulman, actuellement en tournée médiatique, annonce le journal. Libre depuis 10 mois, Tariq Ramadan répond aux interviews, organise des séances de signature et sort cette semaine un livre intitulé Devoir de vérité. Mais Libération publie l'interview de l'une de ses accusatrices, appelée Brigitte, qui a accepté pour la première fois de livrer son témoignage détaillé. Elle accuse Tariq Ramadan de l'avoir piégé, brutalisé et violé une nuit entière du 28 au 29 octobre 2008 dans une chambre d'hôtel à Genève où elle s'était rendue, dit-elle, croyant assister à une conférence privée en compagnie d'autres personnes. Mais en fait, elle est seule. Brigitte décrit ensuite une nuit de sévices. Un témoignage publié alors que Tariq Ramadan clame son innocence, met en cause la justice et décrit les 5 femmes qu'il accuse comme un quintet d'affabulatrices décidées à le faire tomber dans un traquenard, rappelle dans son éditorial Laurent Geoffrin qui poursuit. On imagine difficilement ces femmes qui ne se connaissaient pas se coaliser soudain pour accuser faussement un innocent, quoi qu'en dise Tariq Ramadan.
Un débat de société d'actualité à la une du journal La Croix sur la PMA.
La procréation médicalement assistée. Alors que dans le cadre du futur projet de loi de bioéthique dont l'examen en commission commence demain, l'accès des femmes seules à la PMA est très discuté, raconte le journal. Il y a d'un côté ceux qui, comme le député et rapporteur Jean-Louis Touraine, justifient cet accès par la pluralité des cellules familiales d'aujourd'hui et par l'émergence des mères solo, c'est-à-dire le choix délibéré de devenir une mère célibataire, situation qu'il distingue des familles devenues monoparentales à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Mais il y a aussi ceux qui émettent des doutes, comme les psychiatres qui ont été entendus devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Ainsi, la pédopsychiatre Myriam Ségère qui émet des réserves. « J'ai rencontré, dit-elle, un grand nombre de mères célibataires. J'ai repéré une importante fragilité chez ces femmes avec une culpabilité liée au fait de ne pas avoir donné de père à l'enfant. Cette culpabilité donne naissance à une anxiété maternelle, à des attitudes compensatoires. Elles vont trop s'occuper de ces enfants. Trop les couver. Problème, note La Croix, les enquêtes manquent cruellement. Il existe peu d'études sur le développement et l'épanouissement d'enfants de mères célibataires par choix et nés par insémination artificielle avec donneur. C'est le cas de certaines Françaises qui se rendent en Espagne pour avoir recours à cette technique.
Du sport dans la presse de ce lundi, avec tout d'abord cette photo qui interroge.
C'est dans Le Parisien, une photo de l'équipe sud-africaine de rugby. On y voit des joueurs torse nu, ultra musclés, qui posent en souriant, visiblement fiers de leur allure. À moins de 2 semaines de la Coupe du Monde au Japon, cette photo est très commentée, nous dit Le Parisien. C'est très surprenant, voire flippant, commente Mathieu Blin, un ancien rugbyman français, alors que Fabrice Landreau, actuel directeur sportif délégué du Stade français, avoue n'avoir jamais vu ça. L'un estime toutefois que travailler à mort mort pendant 3 mois peut donner des résultats stupéfiants, alors que l'autre estime qu'un programme rigide a certainement été défini par le staff avec une alimentation particulière et une musculation spécifique. Pourquoi s'interroger alors? Parce que cette photo, précise Le Parisien, interpelle. Elle interpelle d'autant plus que le rugby sud-africain a une réputation sulfureuse en matière de dopage. Au-delà des quelques joueurs contrôlés positifs récemment, c'est la génération 1995, championne du monde à domicile, qui concentre les plus gros soupçons. Et le décès vendredi de Chester Williams d'une crise cardiaque à 49 ans, qui porte à 4 le nombre de morts avant 50 ans de cette équipe-là, n'a fait qu'amplifier les interrogations.
Enfin, le tennis avec la victoire cette nuit de Rafael Nadal à l'US Open de tennis.
Mythique, s'exclame l'équipe qui sur son site publie la photo du vainqueur au sol, les bras en croix. L'équipe qui s'enthousiasme pour cette finale épique donc de 4h51 face au jeune Daniil Medvedev. Une victoire qui permet à l'Espagnol d'empocher son 4e titre à l'US Open, le 19e en grand chelem. L'équipe raconte le match presque minute par minute, le large avantage de Nadal, 2-7-0 et un break en poche dans le 3e avant que le match se transforme subitement. Le russe incroyable de résilience trouve un second souffle et met au supplice son adversaire. Mais comme souvent, c'est l'Espagnol qui gagne à la fin et qui s'écroule en larmes. L'émotion au bout d'un combat inoubliable, conclut l'équipe.